RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG vous salue, bien le bonjour. C'est parti pour 3 heures de discussion avec vous, bien sûr, au 32-16. Vous prenez la parole pour débattre de ce qui fait notre pays, de ce qui fait l'actualité. Bonjour Olivier.
Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui à tes côtés, Joël Dagosséry, la coach de vie. Bonjour Joël.
Bonjour à tous.
Le prof de philo, monsieur Jean-Loup Bonamy.
Bonjour à tous.
Et puis Abel Bouilly, l'éducateur, est avec nous. Bonjour mon cher.
Salut
Abel.
Salut les amis.
Autant rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Parlons d'un film qui a fait l'événement à Cannes. Il a été projeté. On en a parlé, nous, dans les GG. La question est de savoir maintenant si ce film, L'Abandon, consacré aux dernières heures de Samuel Paty, si ce film L'Abandon, qui démarre bien au cinéma, doit être maintenant montré dans les écoles.
Il faut montrer ce film comme d'autres films importants étaient montrés comme La Rafle il y a quelques années aux scolaires. Ce sont des films qui sont là pour aider à comprendre ces moments charnières de notre histoire. Et évidemment, c'est important que les élèves qui sont en apprentissage sur ces questions-là puissent le voir.
C'est Stéphane Simon, coproducteur de ce film L'Abandon, qui était avec nous la semaine dernière au téléphone, la veille de la présentation du film à Cannes. L'Abandon sont les dernières heures de Samuel Paty.
Oui, on a dit tout le bien qu'on pensait de ce film la semaine dernière, et n'en déplaise à ces streamers, je sais pas si vous avez vu un peu débilos à Cannes, qui ont critiqué le film. Alors je sais pas s'ils l'ont vu, ils disent que c'est un film islamophobe, etc. S'il y a bien un film qui ne l'est pas, qui au contraire est assez juste, précis et équilibré, c'est le film L'Abandon, qui raconte donc une histoire éprouvante, hein, les derniers jours de Samuel Paty. Le film, malgré sa dureté, marche bien en salle, donc ça veut dire que les Français ont envie de le voir, et certains voudraient qu'on aille plus loin, notamment les députés, par exemple, Prisca Thévenot, députée Renaissance, qui dit bah, pourquoi ne pas montrer ce film dans les écoles, alors peut-être à partir du collège, du lycée, avec un encadrement, bien sûr, un accompagnement des professeurs. Est-ce que c'est important de montrer ce type de film à nos jeunes?
Les dernières heures de Samuel Paty, le film L'Abandon, faut-il le diffuser dans les collèges et dans les lycées? 32-16 pour en parler avec les GG. Oui, Abel?
Moi, je suis pour, à partir de la classe de seconde. Je voudrais juste rebondir sur
seconde,
ces streamers.
Pas au collège,
ouais,
lycée,
pas au collège, en prévenant les parents, en prenant toutes les précautions, comme ça a été dit. Moi, j'en ai marre de ces bobos blancs qui parlent à la place des Noirs et des Arabes. C'est-à-dire que la communauté musulmane n'a fait aucun scandale sur le film. Et quand on regarde le film et la diversité des acteurs, c'est la France entière qui rend hommage à Samuel Paty. Donc, faut nous épargner toutes ces polémiques qui ne servent à rien. Maintenant, je pense que c'est un film qui peut aider à réparer l'unité de la nation, en tout cas à y participer. Parce qu'on y voit quoi? Premièrement, les failles d'un système. On y voit les failles d'un système, on y voit les failles de l'éducation nationale, on y voit les failles aussi de la police, de la justice, on y voit justement, comme le titre du film l'indique, un prof qui a été abandonné. Et je pense que ça peut permettre de mener des réflexions sur le vivre ensemble, moi j'aime plus parler du faire ensemble, sur le rapport à la laïcité aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut, je dirais pas imposer, mais il faut inciter les élèves à parler de cela, parce que ça fait partie du parcours républicain auquel...
Pour la liberté d'expression, parce qu'à la limite c'est plus la liberté d'expression qui est en cause que la laïcité.
Je pense que c'est lié, mais effectivement c'est d'abord la liberté d'expression, donc voilà, moi j'ai pu le dire à plusieurs reprises, je suis chrétien à titre personnel, quand je vois certaines caricatures qui ne me plaisent pas, ben je ne regarde pas tout simplement, et je n'ai pas à m'improviser épée de quelconque justice pour aller insulter les personnes. Donc la liberté d'expression fait partie de l'esprit français, donc quand on est dans un pays, il faut accepter son histoire, sa culture, ses traditions, et je pense que c'est très important de mener des débats avec des lycéens qui sont un peu mieux construit que des collégiens.
Voilà, nuance pour au lycée, pas au collège, dit Abel Bouilly. Joël Dagosséry, on diffuse à l'école ou pas?
J'ai pas vu le film, donc tu vois, je vais prendre des pincettes pour me prononcer, parce que le contenu, l'histoire en elle-même, je la connais dans les grandes lignes, mais le détail dans le film, je l'ai pas vu. Je pense comme Abel, effectivement, qu'il faut regarder une histoire d'âge. Je crois pas qu'on doit le diffuser comme ça à la primaire ou au collège. 15 ans, ça me paraît...
Maternelle.
Oui, 15 ans, 15-14, voilà, c'est l'âge où tu rentres au lycée. Ça me paraît être beaucoup plus pertinent sur des élèves qui commencent déjà quand même à être construits, qui peuvent débattre aussi, qui peuvent répondre, etc., donner leurs sentiments, etc. Je crois que ce film doit être aussi diffusé particulièrement, non pas aux élèves, mais à l'institution, aux personnes de l'institution. Il doit être diffusé aux encadrants des établissements scolaires, au rectorat, aux directions de l'éducation nationale, parce qu'il doit alerter, c'est la faillite d'un système. Et le système, c'est pas que les élèves. Ces élèves sont chapeautés par des gens. Donc, Monsieur Paty, si j'ai entendu un peu l'histoire, c'est qu'on lui demande de signer une déclaration qui est quand même fausse. Et on lui dit, mais t'inquiète pas, on va faire un truc derrière, machin. On va faire. Et en fait, il se retrouve à signer un truc avec lequel il est pas en adhésion. Tu vois. Donc, quand ta direction te fait signer un papier avec lequel t'es pas en adhésion, il y a quand même un problème. Tu vois, qui est faux en plus dans les faits, il y a un problème. Donc, ce film, il doit être diffusé. Oui, aux élèves de lycée, parce que ça peut découler sur un débat, sur une construction d'idées, sur un rassemblement, mais il doit être diffusé. Désolée, mais moi, la responsabilité des adultes, c'est important pour moi. Il doit être diffusé aux adultes, aux professeurs, aux encadrants, qu'ils voient en direct la lâcheté du système et peut-être quelquefois aussi leur propre lâcheté, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Je pense que dans l'éducation nationale, il y a encore certaines lâchetés sur des trucs peut-être pas aussi graves, mais il y a encore certaines lâchetés et les gens doivent être mis en face de leur propre lâcheté. Donc oui, un grand oui, mais pas uniquement pour les élèves.
Monsieur le professeur, justement, le meilleur pour la fin, le meilleur d'entre nous, Jean-Loup Bonamy.
Non. Mais moi, j'aimerais qu'on arrête de se moquer de nous. J'aimerais que le système, incarné par Madame Thévenot, hein, puisque je crois que ce sont ses amis qui sont au pouvoir, que le système arrête de se moquer de nous et, de manière complètement hypocrite, de nous faire la leçon. C'est-à-dire de « Oh, regardez le pauvre Samuel Paty abandonné ». Déjà abandonné par qui ? Bon, et surtout, les mêmes qui te font des leçons sur la laïcité, la liberté d'expression, sont les mêmes qui continuent de laisser entrer chaque année des milliers d'individus radicalisés dans notre pays. Donc moi, je préférerais qu'on ne diffuse pas ce film, mais qu'on arrête de faire rentrer des Afghans, des Tchétchènes, dont certains sont quand même très radicalisés.
Dominique Bernard et Samuel Paty,
j'aimerais
sont des jeunes d'origine tchétchène.
Je ne dirais rien, mais j'aimerais qu'on nous diffuse des documentaires sur l'islam radical dans le Caucase Nord, Tchétchénine, Gouchi, Daghestan. Et après, on pose la question, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez accepter massivement, sans regarder, les gens qui viennent de ces zones sous prétexte qu'ils seraient éventuellement persécutés, alors qu'en fait certains sont persécutés parce qu'ils sont terroristes déjà dans leur pays. Je dis pas du tout que c'est tous les Tchétchènes. Voilà, il y en a qui sont très bien, mais il y a certains qui sont radicalisés et qu'on ne doit pas laisser entrer dans notre pays. Et c'est ça le nœud du problème. Et en fait, il y en a pas d'autres. Liberté d'expression, laïcité, caricature, c'est pas ça le nœud du problème.
L'affaire Samuel Paty n'est pas partie de Tchétchénie. L'affaire Samuel Paty est partie des mensonges. Des mensonges d'une jeune fille pour des raisons, parce que c'était une mauvaise élève qui avait des problèmes de comportement, qui, pour se dédouaner, explique à son père que Samuel Paty les a forcés à regarder des images de caricatures de Mahomet. Et ce mensonge, c'est ça qui provoque la mort de Samuel Paty.
On n'en serait pas arrivé à la mort de Samuel Paty si tu n'avais pas des Tchétchènes radicalisés capables de décapiter un enseignant.
Le parent d'élève qui a monté une cabale
aidé par un
type qui était prédicateur salafiste, fiché S. Alors là, tu peux pointer la responsabilité de l'État. Parce qu'il était connu des services de police.
Contre les prédicateurs radicalisé.
La responsabilité que tu peux faire par rapport à ce film, alors il y a peut-être l'immigration, mais c'est surtout c'est qu'on n'a pas pris au sérieux les menaces contre Samuel Paty. Le maire en question, qui n'est plus maire, le maire de Conflans-Sainte-Honorine à l'époque, qui refusait que la police municipale protège l'établissement,
les causes immédiates, superficielles.
Le prédicateur, donc salafiste, qui était connu des services de police.
C'est la cause superficielle.
Et qu'on a sous-estimé.
La cause profonde, c'est que tu laisses des individus radicalisés. C'est que tu laisses des individus radicalisés qui n'ont pas leur place dans notre pays, qui viennent de zones extrêmement violentes, se balader dans nos rues. Voilà, c'est ça le nœud du problème.
Oui, d'accord, mais je veux bien qu'on ramène tout à l'immigration directement, mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux très bien avoir un contrôle des frontières. Moi, je suis pas contre le contrôle des frontières.
Oui.
Mais aussi, on a dans notre pays, il y a des populations qui sont là. On est là, nous. Enfin, il faut quand même faire un travail éducatif sur les gens qui sont là, un travail d'alerte.
Je pointe du doigt l'hypocrisie de Madame Thévenot. Donc, et de ses amis qui ne font rien contre cette immigration radicalisée.
Oui, d'accord, mais c'est facile, l'immigration radicalisée.
Ça coûte rien.
Mais les chefs d'établissement, le maire, c'est des islamistes radicaux, ça ? Ils sont pas radicalistes. À moins qu'ils aient adhéré à des thèses radicales et extrémistes, ça les a pas empêchés de faillir devant
du bloc radical qui sont aux affaires, du bloc central qui sont aux affaires, qui sont au pouvoir, comme Madame Thévenot et ses amis, qui ne font rien sur les causes du problème.
On a Marjorie qui veut intervenir au 32-16. Marjorie, auto-entrepreneur. Bonjour Marjorie.
On est d'accord. Bonjour à tout le monde.
Est-ce qu'il faut le diffuser? Ou est-ce que vous êtes plus nuancé comme Abel en disant plus au lycée qu'au collège, dites-moi.
Non, moi je pense que dès le collège, il faut le faire. Quand j'étais petite, en CM2, on a fait... notre maîtresse nous emmenait aller voir Revoir les enfants. Mmh. C'est un film qui m'a marqué et je trouve important dès le plus jeune âge de connaître ce qui se passe, l'histoire, des erreurs à pas répéter. Et donc je pense que c'est important même au collège.
En fait, je pense que ça dépend de l'angle que l'on veut étudier. Il y a la question de la liberté d'expression, il y a la question des réseaux sociaux aussi, comment les choses peuvent s'enflammer. Et je trouve que la question, c'est pas de savoir s'il faut demander est-ce que vous voulez plus de Tchétchènes ou pas.
Ah bah si, c'est la vraie
faire,
question.
C'est comment faire. Ben non, là tu pars dans un hors-sujet. C'est-à-dire que la question, c'est
le sujet.
Doit-on diffuser le film à l'école? Toi, tu finis sur un débat, voulez-vous plus de Tchétchènes
ou pas? Ah bah c'est le
nœud du sujet. Ben non, la question, c'est comment est-ce que l'on prend en compte la parole de l'élève? Comment est-ce qu'on protège le prof, on voit aussi dans le film la dislocation du corps professoral aussi, qui encore est minorée dans le film, hein, parce que c'est pas juste un ou deux profs qui ont lâché Samuel Paty, ils étaient un plus grand nombre. Donc il y a tout ça qu'il faut voir. Et je pense que les élèves ont besoin d'échanger sur ce qui les concerne, mais de voir aussi les failles et d'apprendre sur comment un système professoral peut fonctionner.
Cette gamine, il me semble qu'elle a... Elle a menti pour se rendre intéressante auprès de ses parents, auprès de ses copines, sans forcément savoir que ça allait aller aussi loin, et de montrer aux gamins que le premier mensonge qui leur paraît anodin peut avoir des conséquences catastrophiques.
Exactement.
Oui, donc vous avez raison, ça peut être une leçon aussi pour les enfants, de leur dire attention à ce que vous dites, attention à ce que vous voyez.
Oui, puisque cette fille, elle est dépassée par son mensonge aussi, on le voit dans le film.
Les adultes le verront pas.
Vous êtes maman, Marjorie?
Oui, j'ai deux garçons, j'ai quatre garçons.
Et quel âge ont-ils?
J'en ai deux de 25 ans, j'en ai un de 27 ans, pardon, deux de 25 et un de 18.
D'accord, mais... vous irez le voir, vous, le film L'Abandon, vous l'avez vu déjà ou pas?
Alors non, je ne l'ai pas vu, je ne pense pas aller le voir parce que à 10 euros la séance, ça sera compliqué, mais dès qu'il passera à la télé, oui, je regarderai.
D'accord, merci d'avoir été avec nous Marjorie, merci d'avoir été dans les GG, bonne journée Joël.
Non, sur le mensonge, je crois que l'angle il est assez important et c'est vrai qu'on peut abaisser l'âge si on va sur cet angle-là, mais alors est-ce qu'il faut montrer tout le film pour parler du mensonge ou juste évoquer la genèse en fait de l'histoire de Monsieur Paty? Je pense qu'on peut parler du mensonge, vous avez des élèves et c'est vrai qu'ils mentent, mais parce qu'ils sont dans des foyers qui sont dysfonctionnels, qui sont qui veulent, comme il a dit, impressionner leurs parents. Ils savent, elle a appuyé sur le bon bouton, elle s'est dit j'ai fait une bêtise. En appuyant sur ce bouton de la laïcité, etc., ça va déclencher mon père, il va être en empathie avec moi parce que c'est un sujet qui le touche. Donc il faut parler du mensonge effectivement, mais aller jusqu'à diffuser l'ensemble du film au collège, je le crois pas.
Lui il était prof de collège, hein.
Alors j'ai une question.
C'est-à-dire que l'affaire s'est produite dans un collège.
Je n'ai pas encore vu le film, mais j'irai le voir en tant que GG. Et est-ce que on voit les caricatures dans ce film ou pas? Est-ce que
les
caricatures
bien sûr, si on les voit.
Alors, dans ce cas, je pense que à minima, il ne faut pas montrer ces scènes parce que, à titre personnel, je l'ai déjà dit, je suis contre le fait de montrer des caricatures de personnages religieux, chrétiens, juifs, musulmans ou bouddhistes aux élèves. Moi, je suis contre les caricatures à l'école. Ce n'est pas le lieu de l'école.
Oui, mais c'est représenté scolaire.
Représenter un personnage dans des positions pornographiques, c'est le cas de certaines caricatures de Charlie, n'a pas sa place dans les établissements scolaires. Mais de manière générale, je suis contre les caricatures de personnages religieux dans les établissements scolaires. Oui, je pense que ce n'est pas la place.
Sauf que c'est dans le programme. Et d'ailleurs,
ce que rappelle JL ministre,
il change le programme.
C'est pas les caricatures dans son programme. C'est justement un cours sur la liberté d'expression, oui. Et parmi les documents que le prof peut utiliser, c'est bien expliqué dans le film, il y a des caricatures. Alors, pas tous les dessins, ils ont pris les dessins, on va dire, les plus soft, etc. Mais ce qui a été reproché à Samuel Paty, c'est exactement ce que toi tu demandes, c'est que lui, il a dit, est-ce qu'il y a des élèves de confession musulmane qui peuvent se sentir choqués? Ben, vous pouvez sortir de la classe, ils voulaient pas les voir.
Parce que Samuel Paty n'avait reçu aucune consigne claire.
Ça lui a été reproché par ses propres collègues en disant, t'aurais jamais dû faire les distinctions. Lui croyait bien faire, il disait,
je pense qu'il ne faut pas montrer les caricatures du tout.
Oui.
Et y compris contre les caricatures contre le Christ.
Ouais, mais alors, Jean-Loup.
Ça, c'est un débat.
Moi, je suis contre.
D'accord. Mais.
Et pour le blasphème.
En attendant de stopper l'immigration, quand des jeunes sont ici, l'école est là pour leur montrer ce que tu peux faire en France aussi. Et en France, tu peux caricaturer.
Oui, mais c'est pas parce que tu peux caricaturer.
Et le blasphème n'existe pas. Non, mais c'est aussi une manière de leur dire le pays dans lequel vous êtes, le pays dans lequel vous avez voulu venir, est un pays où l'on caricature. Alors, tu as raison, peut-être pas montrer des caricatures pornographiques, mais où on peut se moquer des religions. Et ça, c'est quelque chose qu'ils doivent intégrer. Parce que sinon, ils ne comprendront pas le pays dans lequel ils sont non plus, aussi, Jean-Loup.
Mais en même temps, ça favorise, chez certains, justement, le fait de leur montrer ça, ça favorise un rejet de la France. Ça les fait complètement vrillés psychologiquement. Ils disent que la France est une nation qui les agresse dans ce qu'ils ont de plus sacré.
Alors, à ce moment-là, il faudrait les cours de biologie aussi.
On arrête pays, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que la biologie, elle n'assume pas la religion. Ah bah, les personnages
si, parce que les cours de biologie ou le darwinisme, ça remet en cause aussi.
Darwin lui-même était chrétien, tu vois, c'est pas.
Oui, mais que tout a été créé par Dieu. Donc attention, là, tu rentres sur une ligne
de
traite.
Mais parce que la caricature, il y a des choses qu'on ne dit pas parce que ça peut choquer.
Non, mais la caricature, elle est directement dirigé contre, tu vois bien la différence avec le courage.
Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le film peut apporter à notre jeunesse en termes de prévention? Est-ce que le film peut apporter aux différents corps professoraux? Est-ce que ça peut apporter à l'éducation nationale? Évidemment que oui. Et je t'invite à regarder le film. Même les jeunes, qui indique à ce fameux Tchétchène à quelle heure sort Samuel Paty. Quand tu vois la scène, comment il y en a un qui s'effondre en fait en larmes devant la police et qui dit je réalisais pas, mais je l'aimais ce prof. Il dit ça en pleurs à la fin. Donc il faut pouvoir parler avec les jeunes.
Qui a donné pour
exactement.
Quelques
billets, et il dit je l'aimais et il pleure toutes ses larmes. Donc il faut parler aux jeunes sur l'embrigadement, sur les réseaux sociaux, sur le mensonge, sur des valeurs basiques. Alors on pourrait dire que c'est aux parents de faire ça. On sait que malheureusement c'est pas fait, ça, donc on est obligé.
Je vais dire un dernier mot, 10 secondes. C'est-à-dire, il y a quelques jours, je mangeais dans un kebab, parce que je suis un sociologue du quotidien, donc je vais partout. Et justement, je mangeais dans un kebab et je regardais donc la télévision turque. Et je vois que la télévision turque, vous savez que la Turquie est un très gros producteur de séries. Il y a énormément de séries qui exaltent l'histoire épique de la Turquie. Mustafa Kemal, l'Empire Ottoman, il y a beaucoup de séries ottomanes. Moi, je suis plutôt pour qu'on produise et qu'on diffuse aux élèves des séries et des films qui exaltent notre histoire épique. On ferait mieux de faire quelque chose sur Clovis. Clovis qui met des coups de hache à ses ennemis visigoths.
Ah, bah tiens.
Voilà, ça favoriserait l'intégration.
Bien sanglant.
Parce que les mecs, ils se diraient.
Bien décapitant.
Ils se disent, bah voilà, exactement. Ils diraient, ah, la France, c'est bonhomme quand même.
C'est banger.
Ça donne envie d'être français. Excuse-moi, Clovis qui met des coups de hache à un visigoth.
Allez.
Ça donne envie d'être français. Moi, je préfère relire Astérix chez les Gaules aussi. Il y a des coups de poing et des bonnes vannes aussi. Je préfère ça à ce moment-là.
Quand c'est Clovis qui décapite, c'est bon en fait.
Mais Clovis, c'est excellent.
Le film L'Abandon.
C'est la décapitation à la carte avec Jean-Loup, en fait.
Ce monsieur est professeur.
Oui, le film L'Abandon, doit-il être diffusé à l'école? Oui ou non? On va voir ce que vous en pensez au 32-16 et sur les réseaux sociaux. Oui, dites-vous, à 88%. Allez, dans un instant, justement, on va regarder ce qui se passe dans les centres de rétention. Ce sont des données officielles. 60% des étrangers en rétention ont été libérés, mais ils n'ont pas été expulsés. Là aussi, on a quand même un problème
d'immigration en France.
Hein. C'est au 32-16 que vous venez en discuter avec les GG. Et puis, n'oubliez pas les inscriptions parce que la Coupe du Monde, c'est bientôt. La Coupe du Monde, c'est dans un mois. Et cette semaine, vous pouvez gagner les cadeaux pour profiter de la Coupe du Monde. Des écrans, des barres de son, des maillots, des bleus, des baby-foot. Ça se gagne jusqu'au 29 mai sur RMC, juste en envoyant liste par SMS au 732-16. Elle a tout de suite avec les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, avec aujourd'hui Joël Dagosséry, la coach de vie, Abel Boyer, l'éducateur, Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie. On va regarder des chiffres qui sont répertoriés par les associations, vous savez, qui s'occupent des migrants, des camps de rétention, voire
Combien on a de personnes qui sont en rétention? Combien en sortent et combien sont expulsées? Allez, vous réagissez au 32-16. 16 500 étrangers placés en centre de rétention. Et là, on est sur l'année 2025. Mais seulement 36 ont été expulsés, 36%.
Oui, alors les ressortissants des trois pays du Maghreb sont majoritaires. Il y a 30% d'Algériens, 11% de Tunisiens et 10% de Marocains parmi les personnes qui sont dans ces CRA. On appelle ça des CRA, des centres de rétention administratifs. Alors, on apprend effectivement que seulement 36% des personnes retenues seront finalement expulsées, éloignées. Donc, c'est un chiffre d'ailleurs qui est en baisse par rapport à 2024. C'était 39 en 2024. Il y a tout un débat sur la durée de rétention, parce que souvenez-vous, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, expliquait qu'il fallait un peu plus de temps parfois pour instruire les dossiers, pour obtenir les fameux laissez-passer consulaires. Or, en France, c'est limité à 96 jours la durée de rétention, alors que dans d'autres pays, notamment en Allemagne, c'est autour de 200 jours. Donc, il y avait eu un premier texte qui avait été défendu par Retailleau, qui prévoyait d'allonger de 3 à 7 mois, 210 jours, donc la durée maximale en centre de rétention. Ça avait été retoqué par le Conseil constitutionnel. Là, de nouveau, il y a une proposition de loi soutenue par le gouvernement et portée par le député macroniste Charles Rodwell, qui est examinée aujourd'hui même au Sénat. Alors, est-ce que, selon vous, il faut effectivement pouvoir garder plus longtemps les gens en centre de rétention pour peut-être mieux traiter leurs dossiers et réussir enfin à les expulser, sachant que Monsieur Darmanin était en Algérie, notamment sur ce dossier hier.
Clovis Bonamy.
Exactement. Vous savez que Louis, d'ailleurs, Louis XIV, Louis XV, c'est Clovis en fait. Hein, Louis, c'est le dérivé de Clovis, c'est pour ça qu'il y a autant de rois de France qui s'appellent Louis. Donc, passons. Alors, pour moi, c'est un nouvel exemple de les juges contre le peuple. C'est-à-dire, t'as une volonté populaire, sondage après sondage, on voit que les Français demandent massivement plus de fermeté sur l'immigration. Et quand, parce qu'on a une durée de rétention qui est beaucoup trop courte, surtout si on la compare à d'autres pays européens. Donc, en fait, ça n'a rien de dingue d'allonger la rétention, puisque dans les autres pays européens, le délai de rétention est beaucoup plus long. Notamment en Allemagne. Et quand tu proposes d'allonger, tout de suite, tu es retoqué par le gouvernement des juges, par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire par des gens que personne n'a élus. Et donc, évidemment, tu ne peux mener aucune politique migratoire. Donc, en fait, déjà, il n'y a pas assez de place dans les centres. C'est comme en prison, hein, on manque de place partout. Il faut plus de place dans les centres. Parce que sinon, en fait, tu gères la pénurie de places disponibles et tu n'as pas une vraie politique migratoire. Donc il faut plus de places dans les centres, il faut augmenter considérablement la durée de rétention pour ne pas être pris par le calendrier, il faut réduire, je dirais même supprimer les 12 recours possibles qui permettent juridiquement aux étrangers de ne pas être expulsés, il faut revenir sur le droit d'asile. Je rappelle que justement la famille du terroriste qui a décapité Samuel Paty avait bénéficié de ce fameux droit d'asile. Justement que c'était un juge qui nous avait imposé d'accepter sur notre sol cet enrichissement culturel et de donner l'asile à cette très charmante famille. Donc, voilà, il y a toute une série de problèmes. Et enfin, il y a la question des laissez-passer consulaires. Donc moi, plutôt que de renvoyer des gens dans des pays qui en fait ne veulent pas d'eux et ne nous donnent pas les fameux laissez-passer consulaires, je pense qu'il faut faire des accords avec des pays tiers. Avec, par exemple, tu fais un accord avec le Tadjikistan et l'Algérien pénible que tu n'arrives pas à expulser, tu l'envoies dans un pays tiers que tu payes, que tu finances pour qu'il héberge ce monsieur.
Jean-Loup vient de parler, monsieur.
Oui, il est en exaltation. Abel. On voit que dès qu'il s'agit de l'immigration, c'est une extase.
Une pensée
vraiment,
pour Samuel Paty.
Tu tastiques mentalement presque, quoi. Alors, ce qu'il faudrait, c'est.
Bah, hélas,
c'est,
non, parce que je vois l'impuissance.
Oui, tu tastiques mentalement.
Hélas,
oui,
j'aimerais bien.
Ah,
mais hélas,
c'est ce qu'on appelle la
mentalité.
Exactement.
Face à cette impuissance, le spectacle n'est pas très.
Tu as tes mouchoirs. Tu as tes mouchoirs, j'espère.
Le spectacle n'est pas très stimulant.
Moi, je pense qu'il faut user de pragmatisme. Je pense qu'une durée de détention de un an, partir sur une durée comme ça, qui permettrait de mieux gérer le dossier, parce que la problématique, elle est quoi? Elle est administrative, matérielle et diplomatique. La question de trouver des accords avec des pays tiers, ça, je suis d'accord, pourquoi pas. Bah oui. Mais tout part de là. À partir du moment où on sait que on arrête quelqu'un, on le met dans un centre et qui va sortir bien avant que le dossier soit entériné, soit traité, c'est en fait un non-sens. Donc pourquoi ne pas partir sur un an, tout simplement, en espérant l'assurance que plus de personnes pourraient être reconduites chez elles. Donc on voit aussi qu'il y a la question du réchauffement en ce moment des relations avec l'Algérie, de la méthode Nunez et Darmanin, que je préfère à celle de l'ancien ministre de l'Intérieur, monsieur l'ordre, parce qu'on voit qu'il commence à y avoir des petites ouvertures.
C'était Retailleau.
Oui, voilà, oui, l'ordre, effectivement, monsieur Retailleau, qui d'ailleurs n'a rien fait. Donc moi, je pense qu'il faut partir sur la diplomatie, effectivement, pour pouvoir régler cette situation, mais ici, légiférer, quitte à passer en force, entre guillemets, sur le temps de durée. Un an, je pense que c'est une bonne mesure.
Il vient de dire à peu près la même chose. Il est pour les accords avec les pays tiers,
oui,
il est pour
l'allongement
de la durée.
Je ne suis pas dans l'exaltation de l'immigré dehors ou l'immigré qui serait la problématique de tous les problèmes de Français.
J'ai jamais
dit Français,
ça. Est-ce que on a un problème avec le Conseil constitutionnel qui empêche de mener les politiques qu'on devrait mener?
On a aussi un problème d'efficacité politique. Je crois que nous en étions, dans mes derniers comptes, à la 26e loi sur l'immigration.
Oui, ça c'est... Donc, chaque ministre a sa loi sur l'immigration.
Voilà, donc si tu as 26 lois sur l'immigration et qu'au résultat, tu vois que tu as 60% des expulsions qui ne fonctionnent pas, on a un problème d'efficacité politique et on a un problème aussi de communication politique puisque... Tous les ministres de l'Intérieur, et surtout M. Retailleau, puisque Albert l'a si bien rappelé, font leur beurre et leur carrière, en tout cas les derniers grands ministres de l'Intérieur, sur l'immigration. Mm-hmm. Et sur, soi-disant...
C'est leur sujet en même temps.
Oui, mais c'est pas que leur... Non, il n'y a pas que l'immigration sujet de...
Dans leurs prérogatives.
Oui, d'accord, mais je veux dire, c'est sur ça qu'ils construisent...
Il y a une attente des Français aussi.
Oui, mais qu'ils bâtissent leur crédibilité politique. Et on voit à la fin que malgré ces 26 lois, il n'y a rien. Ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est que j'ai regardé du côté de la France d'outre-mer comment ça se passe, parce que faut toujours des fois aller regarder là-bas, parce que je vais te dire, la France a deux politiques. Elle a la politique de la France métropolitaine et la politique de la France d'outre-mer. Et sur Mayotte, par exemple, on a un taux d'expulsion qui approche les 80%. Pourquoi ? Parce que justement, il n'y a pas ce que Jean-Loup dénonçait, toutes les dérogations et tous les recours. Voilà. Donc là-bas, en fait, ça expulse à la volée. Et personne ne regarde. Et le Conseil d'État, moi, je ne sais pas ce qu'il fait, puisqu'apparemment, ici, il bloque sur la durée de rétention. Pourquoi est-ce que là-bas, ça fonctionne autrement?
Ouais, ça fonctionne,
je ne dis pas.
Ça ne fonctionne pas bien quand même. Hein,
mais je veux dire, ça expulse beaucoup. Le taux d'expulsion est beaucoup plus élevé que...
Le taux d'entrée est aussi très important.
Oui, j'entends bien. J'entends bien.
Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème.
Non, je ne dis pas non. Mais je veux dire qu'il y a une fluidité d'entrée, mais il y a aussi une fluidité de sortie. Donc moi, je commence à m'interroger sur qu'est-ce qui fait que de l'autre côté, ça fonctionne comme ça. Et en France métropolitaine, c'est un département. Hein. On n'est pas sur un territoire, on est sur un département. Donc c'est la France carrément égalité avec le département du 94 ou je ne sais où, du 14 ou ce que tu veux. Donc cette différence de traitement, je ne me l'explique pas. Qu'on m'explique, parce que là, j'ai pas les détails. Ceci dit, je rejoins mes deux amis. Je pense qu'il faut être vraiment pragmatique. Il faut arrêter de faire rentrer les gens et les faire sortir. Il faut une durée qui permette de régler les dossiers. Mais il faut aussi... Attention, il n'y a pas que des terroristes dans les immigrés qui sont en CRA. Il y a aussi des gens qui ne voient pas leur dossier traité à temps par les préfectures. Et des gens qui aspireraient tout à fait normalement, exactement. Et donc ça, c'est ce que M. Nunez est en train de régler, j'imagine, puisqu'il a demandé à recruter beaucoup plus de personnes pour traiter les dossiers. Et ça engourdit malheureusement les CRA. Donc il y a tout un tas de sujets dessus. Mais ce que je note, c'est que encore une fois, la politique est inefficace. Attention à la communication politique, notamment des ministres de l'Intérieur.
Thomas est responsable d'un centre d'hébergement pour mineurs, justement, du côté de l'Hérault. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Bonjour Thomas. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce mission impossible, les expulsions, alors?
Alors, c'est mission impossible. En tout cas, c'est très compliqué, vu que ça dépend des accords avec les pays. On a un certain nombre de pays avec lesquels on a des accords. Déjà, c'est compliqué. Mais alors, les pays avec lesquels on n'a pas d'accord et qui refusent clairement de récupérer des personnes issues de leur pays... C'est mission impossible, et c'est là où je pense qu'on se trompe un petit peu de débat et que c'est un peu démago, cette histoire de délai, parce que ça ne résoudra pas le renvoi des personnes en situation irrégulière. Ceux qu'on n'arrive pas à renvoyer en 6 mois, en 3 mois, n'importe, on ne les renverra pas en un an et demi. Par contre, il y a quand même beaucoup à faire effectivement sur les places disponibles en CRA pour effectivement... vérifier les dossiers sur les centres d'hébergement pour demandeurs d'asile, etc. Il y a plein d'autres choses à faire pour aller plus vite sur soit de la régule ou non. C'est pas le débat n'est pas là. Mais en tout cas, juste la question du délai, pour moi, c'est vraiment de la communication politique qui ne répond rien. Le problème du renvoi
de façon, je vais vous rassurer, Thomas, le nouveau texte qui a été donc reformulé après le rejet ou la censure par le Conseil constitutionnel, c'est reformulé de façon très restrictive, c'est-à-dire que ça ne va concerner que quelques dizaines de personnes par an. Donc ne nous emballons pas, ce nouveau texte est examiné d'ailleurs demain, hein, c'est pas aujourd'hui, c'est demain au Sénat. C'est vraiment, j'ai envie de dire, un peu de la poudre aux yeux. Ça ne résout pas, effectivement, vous avez raison, le problème de ces cracks qui débordent, on ne sait plus quoi faire des gens, on les relâche donc dans la nature, on les récupère d'ailleurs souvent, on va de nouveau les arrêter, enfin en plus c'est un truc sans fin, c'est-à-dire que de nouveau il y aura un contrôle de police, de nouveau la personne sera remise dans un CRA, de nouveau elle sera relâchée. Oui. Donc en fait c'est des fonctionnaires qui sont utilisés à ça. C'est beaucoup d'énergie dépensée pour rien. Et je suis d'accord avec ça avec Joël, c'est-à-dire que les ministres de l'Intérieur se suivent et se ressemblent. C'est-à-dire que c'est toujours des effets d'annonce, des lois. Oui. On va être ferme, on va être pragmatique. Ça y est, j'ai la bonne formule. J'entendais M. Nunes en parler ce matin, M. Retailleau avant. Mais si on peut remonter le fil de ces dernières années. Et problème c'est que les Français sont de plus en plus en colère contre cette inefficacité. Pourquoi Bardella est à 36%? C'est en grande partie sur ces questions d'immigration.
Jean-Loup.
Alors oui, moi je me pose juste une question, parce que notre auditeur disait très justement qu'il y a des pays qui ne veulent pas récupérer leurs ressortissants, ce que d'ailleurs je peux comprendre, peut-être qu'à la place de ces pays, je ne voudrais pas les récupérer non plus, mais la question que je me pose, c'est, il me semble que la France, dans le cadre de l'aide au développement, elle verse de l'argent à ces pays.
Oui, complètement.
Elle les aide, c'est-à-dire qu'il y a des... Aujourd'hui, les Français, ils travaillent, ils payent des impôts. Une partie de ces impôts sert à aider ces pays, ou plus exactement, les gouvernements corrompus de ces pays qui détournent cet argent de l'aide au développement. Et donc, on n'exige aucune contrepartie. On ne demande pas de contrepartie migratoire. On ne dit pas, là, il y a une aide qui est versée. Donc, en contrepartie, vous reprenez vos propres ressortissants. Il est présent illégalement sur le territoire français.
Alors, Jean-Louis, tu connais très bien la géopolitique, tu sais que c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Parce que toi qui vas dire, le président qui va dire, on supprime l'aide au développement. Mais c'est-à-dire que tu te prives potentiellement de l'exploitation de certaines ressources dans ces pays. Tu sais que c'est plus compliqué. Oui. Tu vois, quand on parle de la relation avec l'Algérie.
Et tu dis que le gouvernement, on va dire, désolé les gars, aux entreprises pétrolières ou minières.
Plus de minerais, tu sais que c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que le politique,
je pense quelque chose,
mais les gens, il prend les gens pour des imbéciles.
Ça dépend comment tu le formules. Si tu le formules correctement.
Écoute, par exemple, il y a un pays qui est très présent en Afrique qui s'appelle la Russie. La Russie ne fait pas beaucoup dans l'aide au développement. Et l'envoi des mercenaires pour protéger des dictateurs, ça suffit largement. Tu vois, il n'y a pas besoin d'aide au développement.
Et elle exploite un petit peu les minerais.
Mais là, elle est en train de se faire foutre dehors, la Russie, en plus. Là, donc,
mais tu vois, il n'y a pas besoin. Les Chinois sont quand même moins... Tu vois, les Chinois, ils n'acceptent pas que les pays déversent leur surplus de population chez eux en échange de leur investissement.
Tu vis en 1982. Jean-Louis, il croit que la France, elle est en 82, elle arrive. Tu sais quoi, petit pays d'Afrique, je vais te supprimer l'aide au développement.
Exactement.
Ils se font chasser de toutes leurs anciennes colonies. Le président Macron est en train d'exploiter des pistes nouvelles sur l'Afrique anglophone. Il était au Kenya la semaine dernière. Toi, tu penses que tu es encore en 82 avec la France qui dit, attention, petit pays d'Afrique. C'est plus comme ça, Jean-Louis.
On supprime l'aide au développement, au moins, déjà, ça nous fera faire des économies.
Mais tu supprimes l'aide au développement. Je crois qu'aujourd'hui, la France a besoin encore d'un marché de plusieurs milliards de personnes, qui est l'Afrique. Donc, attention à comment des solutions à l'emporte-pièce.
Merci.
Toi, t'es trop Retailleau.
Thomas, d'avoir
pas du tout. Et surtout, ces pays, c'est les gouvernements de ces pays. Je parle pas du tout des populations, mais les gouvernements de ces pays veulent des armes et des mercenaires. C'est ça que la France ne comprend pas.
Merci à Thomas d'avoir été avec nous.
Les dictatures de ces pays veulent des armes.
Le on s'en fout pas. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story, Joël Dagosséry, Jean-Loup Bonamy et l'ami Abel Boyi. Voilà nos trois grandes gueules. Et il est l'heure d'accueillir Anaïs Inès Sainz. Il est 10h moins le quart. C'est l'on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Oui, moi je suis assis. Anaïs Sainz est debout, mais on fait la même taille. Bonjour Anaïs Sainz.
Bonjour. Les GG, bonjour à tous. La taxe sur les petits colis, beaucoup de bruit pour rien les GG, c'est ce que titre l'Opinion ce matin. Elle devait renflouer les caisses de l'État, mais finalement c'est un coup d'épée dans l'eau. Elle provient, la taxe sur les petits colis hein, provenant de Chine, vous savez, on en avait beaucoup parlé, elle est entrée en vigueur le 1er mars dernier et devait produire 400 millions de recettes par an selon le gouvernement, mais vu les acteurs chinois ont réussi à la contourner, eh bien le rendement de cette taxe est actuellement 13 fois inférieur aux attentes, 13 fois. Mon cher Jean-Loup, tu t'en fous ou pas ?
Je m'en fous.
Ah bon, Abel.
On s'en fout pas.
Joël. Ce sont les calculs des douanes. Hein. Et pour rappel, 90% des avions cargo qui arrivent maintenant en Belgique ou aux Pays-Bas, finalement arrivent en France par la route. Et magique, pas de taxes à régler en passant par la frontière terrestre.
Merci l'Union Européenne.
Exactement, merci Ursula. Ouais. Et c'était une fausse bonne idée, c'est-à-dire que les Chinois ont dû se marrer quand ils ont entendu cette annonce. Les Chinois déjà fonctionnaient de cette manière, donc ils ont juste amplifié leur contournement.
Sans pouvoir l'anticiper.
Et nous, pauvres Français que nous sommes, toujours plus perdus dans cette mondialisation dans laquelle nous sommes en train d'être dissous, nous passons encore pour des imbéciles, et aux yeux des Chinois, et aux yeux d'Ursula qui continue de se foutre de notre gueule tous les jours.
Ah bon, Joël ?
Quelle clownerie quand même. Quand je repense à cette opération ouvrage de colis avec les ministres qui s'étaient rendus... Ouais. À Roissy,
ouverture.
Oui, ah oui, c'est vrai, pardon. Ouverture. Pourquoi ouvrage?
Ouverture de colis. Il n'y avait pas Amélie de Montchalin à l'époque.
Oui, il y avait Amélie de Montchalin.
Je vois la photo.
Et ils ouvraient chaque colis et puis ils sortaient les petits vernis, les t-shirts, des colis. Non, mais n'importe quoi. Écoute, c'est l'Union Européenne et ils le savent très bien. Ça, c'est de la communication. Je vous dis qu'on nous en fume.
Oui, mais alors.
Ils le savent bien.
C'est grave parce que c'est quand même de l'argent qu'on attend dans les caisses et finalement.
Mais ils nous mentent.
Ils nous mentent. Ils servent à rien.
Ils voient les magasins dans les centres commerciaux en train de fermer. Les Jennifer, les Camailleux, les je ne sais quoi, et ils te disent regardez, on va faire 2 euros, etc. Ils savent très bien qu'il suffit de foutre un entrepôt au sein de l'Union Européenne pour contourner ce truc. Et je vais vous dire, les Chinois sont en train de nous rouler dessus. Oui, oui. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui traite par AliExpress, hein, le site AliExpress, pour commander donc des articles qui sont professionnels, non, vraiment pour du
D'accord.
pro. Il ne dorment pas. Tu envoies un message. Il est 2h du matin. T'as quelqu'un, un employé en Chine, qui te répond par vidéo, qui te filme l'article et tout. Il ne dorment jamais. Nous sommes morts dans le film. Je vous le dis. Vous savez, nos 9, 17 heures et nos 6 semaines de congés payés et nos 400 grèves par an qu'on va contrer la Chine. Je peux vous dire.
Moi, je pense qu'il y a surtout un problème avec ces foutues taxes que le gouvernement aime inventer chaque année et qui ne rapportent jamais ce qu'elles doivent rapporter. Parce que l'opinion rappelle que la taxe sur les yachts, là aussi, devait rapporter, n'a rien rapporté. Non. D'ailleurs, maintenant, il n'y a plus de yachts français. Ils sont tous pavillons étrangers. La taxe sur les hauts revenus, pareil, n'a pas rapporté ce qu'elle a rapporté. Donc, trop de taxes, tue la taxe. Et puis surtout, il n'y a pas d'étude d'impact. C'est-à-dire qu'ils n'anticipent jamais le coup d'après en disant peut-être que les gens qui ont des yachts vont changer de pavillon. Peut-être qu'effectivement, les Chinois arrêteront d'envoyer ça par avion, mais contourneront par d'autres moyens. Il y a quand même question d'incompétence, quand même, à ce niveau-là.
Établir des frontières nationales.
Peut-être changer de
personnel. Mais GG, à Marseille, un magistrat risque la révocation à vie. Il avait été condamné l'année dernière pour près de 200 fraudes au péage. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Jean-Loup ?
Allez, je m'en fous pas.
Ah, merci. Abel ?
Je m'en fous.
Joël ?
On s'en fout.
Sa technique, il collait à scooter le véhicule devant lui pour passer la barrière gratuitement avant que cette barrière donc ne se referme. Ça s'appelle la technique du petit train. L'homme de 47 ans est donc passé devant le conseil supérieur de la magistrature ces jours-ci. Il a exprimé sa honte. Il a évoqué en fait le traumatisme qu'il aurait subi après l'attentat de Nice en 2016 pour justifier ses actes. Jean-Loup.
Non mais moi je trouve le titre très drôle, le magistrat qui fraude 200 fois. Donc moi je trouve
196,
ça assez drôle. Non mais j'aimerais savoir, en fait, pour savoir avant de le révoquer ou pas, même si je trouve sa défense tout à fait pathétique. Vraiment ce que tu viens de dire sur la défense est consternant, la psychologisation, le traumatisme de l'attentat, enfin c'est vraiment se moquer se moquer des gens. Bon, mais j'aimerais savoir, faudrait regarder si c'était un magistrat compétent ou pas, et si c'était un magistrat intègre ou pas. Et si par ailleurs, si c'était son seul vice, et si c'était un magistrat très compétent, très intègre, très efficace, je pense qu'il faudrait quand même le garder. Et si par contre on découvre qu'il fraudait aussi dans son activité professionnelle, justement, ça pourrait être l'occasion de regarder d'un peu plus près dans ses dossiers. C'est possible, je ne me prononcerai pas, mais faut regarder. Bon, c'est intéressant de creuser.
Est-ce que vous allez vous aider
de... Vous êtes quand même.
C'est le conseil de la magistrature qui tranchera. Est-ce que vous vous aiderez de l'IA, les GG, pour voter en 2027? Pourquoi cette question? Parce qu'aux dernières municipales en mars, un Français sur six déclare avoir consulté l'intelligence artificielle pour arrêter son choix sur un candidat. C'est un sondage Harris Interactive. Est-ce qu'on s'en fout pas, Joël?
On s'en fout pas.
Jean-Loup.
Allez, on s'en fout pas.
Abel.
On s'en fout pas.
L'usage est également plus urbain que rural. Hein. Il atteint 22% dans l'agglomération parisienne, par exemple, contre 7% en zone rurale. Joël.
Bah écoute.
Est-ce que tu vas faire passer tous les programmes à l'IA?
Mais non, mais au début, je me suis dit, non, mais quelle connerie. Mais à la fin, quand tu regardes, vu le nombre de mensonges qu'on nous raconte, t'as envie quand même de faire passer tous les programmes à la moulinette et de voir. Mais ce qui se cache derrière.
Est-ce que c'est faisable ou pas? Est-ce que les mesures sont faisables?
Est-ce que c'est faisable et tout? Donc moi, je dis pourquoi pas. Déjà, ça permet de fact-checker. Tout le monde ne lit pas les programmes. Donc si on a certains qui décident d'aller fact-checker à ce point-là, pourquoi pas?
Et tu crois encore au programme? J'aime ta naïveté.
Ou même aux interviews.
Non, mais au moins, si t'as envie d'avoir une base.
Jean-Loup, bon ami.
Moi, j'ai demandé à l'IA un candidat qui avait un programme sérieux pour redresser l'économie française.
T'es tombé sur qui?
Et j'ai fait Claude à Moulinet pendant 30 minutes. Et après, il m'a dit que j'avais fait planter le serveur aux États-Unis. Donc, finalement, il m'a pas donné de réponse. Après, j'ai reçu 10 millions de dollars de pénalité en token.
Et toi, Ben,
pour planter le système.
Alors, moi, je trouve que même si ça a l'air drôle comme ça, c'est symptomatique du déclin toujours plus profond de la santé mentale. Moi, je vois beaucoup de jeunes pour qui leur meilleur ami, c'est ChatGPT, qui leur demande comment je dois m'habiller aujourd'hui. Donc même ces gens qui consultent,
on en est là,
qui parlent avec ChatGPT, qui sont dans la dépression, qui sont suicidaires. Donc quand on lit comme ça des personnes qui peuvent se mettre à demander pour qui voter, comme ça a été fait notamment lors des municipales de la dernière fois, ben moi je pense que c'est une alerte gravissime parce que l'intelligence artificielle, en plus de nous rendre paresseux et paresseuse intellectuellement, va jouer le rôle d'une sorte de médecin, mais qui va aboutir à une société complètement
désarroi des électeurs, parce que jamais on a eu autant de candidats. Vous avez vu, on en a déjà quasiment une trentaine de candidats déclarés. Mm-hmm. Je lis ce matin que Bernard Cazeneuve a le désir d'être président de la République.
Ah bon,
un de plus.
Donc,
ils ont tous ce désir, et les Français, eux, ont de moins en moins de désir pour eux. Et donc, ce manque de désir, nous pousse à aller vers ChatGPT, me dire, je sais pas quoi faire. Il y a une trentaine de candidats, il y en a aucun qui me
convient. Justement, c'est tout à l'heure, c'est un candidat à l'élection présidentielle qui sera avec nous, Nicolas Dupont-Aignan. Il viendra parce que, selon lui, aujourd'hui, si la France sombre, c'est à cause de l'OTAN, de l'Union européenne, du macronisme. C'est le choix de 2027, selon Nicolas Dupont-Aignan.
C'est un peu le candidat permanent.
La liberté ou la mort. La liberté pour la France ou la mort de la France. Il sera avec nous tout à l'heure dans les GG à 11h. Dans un instant, la deuxième heure des Grandes Gueules. Les nouveaux records d'essence à la pompe, les carburants. Comment vous vous en sortez? Et Le Cornu, Sébastien Le Cornu, notre Premier ministre, a-t-il anesthésié la France? Est-ce qu'il nous a endormis? 32-16, à tout de suite.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.